L'heure vous est offerte par le garage Balcon du Jura, votre nouvelle agence Suzuki à Sainte-Croix.
Il est 19h sur Radio Carnaval. Et si vous commencez à manger à l'instant, nous vous souhaitons un joyeux appétit.
Pour vos canapés, fauteuils, tables, chaises, armoires, literies, matelas, choisissez Yverdon Meubles. Un grand choix vous attend sur 3 étages et 2000 mètres carrés. Des meubles de qualité, livrés et montés gratuitement à domicile. Yverdon Meubles vous accueille au Bay, avenue de Grandson, sortie autoroute Yverdon Ouest. Yverdon Meubles, la qualité de la vie.
Envie d'évasion ? La ligne de chemin de fer entre Sainte-Croix et Yverdon-les-Bains est à votre disposition depuis 130 ans. Des collaboratrices et collaborateurs Travis vous accueillent au guichet de la gare tous les jours. Ils vous conseillent pour vos arrangements de voyage et vous proposent un service de change avantageux. Travis, laissez-vous transporter.
Tu vas où ?
Au bal des enfants.
C'est quoi ?
Ben, c'est un bal pour les enfants.
Avec
des confettis,
avec
de la musique trop cool,
avec
des déguisements
et plein d'autres choses.
Youpi!
Viens t'amuser avec tes amis sous la tente du carnaval le samedi 11 février. Il y aura des super animations, une mini disco avec la mascotte Cléo, des grimages et du maquillage, un spectacle, des kamichibai et un goûter avec plein de bonnes choses.
Allez, on y va!
Envie de faire la fête, danser toute la nuit? Alors viens t'éclater à notre soirée carnavalesque du samedi 11 février. Concert des Gougun dès 21h, suivi du DJ set de Igor Blaska. Move ton body toute la night au Carnaval de Sainte-Croix.
Les fruits de la passion.
Les fruits de la passion.
L'émission Pur Jus.
L'émission Pur Jus.
Pour un plein d'émotions.
Pour un plein d'émotions.
Up in the sky, there is a village, and the people there are blue. I believe it's true. Up in the sky, people are happy, they love to sing, and there is no need for a king. Up in the sky, nothing is insane, like a rocket-driven plane. You can fly above. Up in the sky, you just feel fine. There is no running out of time, and you never cross the line. I never want to die. I wanna live in the sky. Up in the sky, you can fly. You will make it if you try. In the sky, you are far away. Up in the sky, you can sing and you can do.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Radio Carnaval. Vous pouvez nous avoir sur 94.3 et sur DAB 8A. Bienvenue surtout dans l'émission Les Fruits de la Passion. La Radio Carnaval nous tient chaud depuis ce matin 6h. Et après le champagne à 6h, la soupe au pois des 13h et la fondue ce soir finalement. Que du bonheur, je co-anime cette émission avec Sylvaine. Alors salut Sylvaine.
Salut Sylvain, merci d'être là. Hein.
Avec plaisir pour ma première émission,
vraiment
officielle, autrement c'était officieux. C'est que du bonheur et je me réjouis de passer cette semaine avec toi et avec nos invités.
C'est un plaisir partagé, Sylvain. Alors je vais commencer par remercier notre parrain qui est Blue Fires, formation au premier secours. Voilà, ça c'est fait. Sylvain ?
Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre premier invité qui est domicilié à Sainte-Croix. Il est marié, a 2 enfants. Il est connu à Sainte-Croix notamment en raison de ses activités sportives et on peut même dire sans prendre de risques, notamment par rapport à quelques exploits sportifs. Il a réalisé plusieurs défis, un tout spécial durant la période particulièrement difficile du Covid, puisqu'il était destiné à récolter des fonds afin d'apporter de l'aide à sa sœur qui était indépendante. De plus, nous sommes doublement heureux puisque d'une part, c'est l'un de nos contemporains, Sylvain.
Oui, alors absolument, avec grand plaisir. Nous sommes représentés l'année 1960, on ne dira pas, voilà. Hein.
On ne la dit pas.
Voilà, on ne dit pas. Surtout de la part d'une dame, on ne le dit pas. Hein. Alors bien sûr, notre invité est un passionné de la course à pied, et en particulier de trail, respectivement des courses longues en montagne. Il a participé à la mythique, alors je peux vous dire qu'elle est mythique celle-là, hein, Diagonale des Fous, et à d'autres courses d'endurance. Il aime les défis, et non des moindres, avec des objectifs de course avec plus de 390 km et 24 000 mètres de dénivelé. Il est là pour nous en causer. Alors, sans plus attendre, nous accueillons Pascal Pittet.
Bonsoir. Salut Pascal.
Salut Pascal.
Bah, première question Pascal, bah, comment vas-tu? Est-ce que tu as pu un peu profiter de ce début d'hiver pour faire de l'activité sportive, raquette, pot de fox, ski de fond?
Alors merci, je vais bien. Alors vu les conditions de cet hiver, bah, malheureusement j'ai pas encore sorti les skis, mais par contre les baskets sont restées accrochées aux pieds. Et puis aussi quelques sorties en deux roues.
C'est-à-dire les deux roues, c'est? Tu peux préciser pour moi?
Alors, j'ai été en VTT, vu qu'il n'y avait pas de neige, ou sur route avec mon vélo de route. Et puis, je fais aussi du vélo de piste.
Alors, la première question qu'on a envie de te poser, Pascal, c'est quoi le trail? Parce qu'en fait, moi, j'y connais rien. Hein, je veux dire, franchement, hein, je suis vraiment novice en la matière. Et puis, je vais te laisser déjà répondre et après, je te poserai la suite.
Alors, le trail, c'est ce qu'on appelait au tout début la course nature. C'est en opposition à des courses sur route. Donc, c'est en général des courses en montagne avec un profil plutôt accidenté. Et puis, on a aussi une particularité par rapport à la course sur route où les ravitaillons sont un peu moins fréquents. Donc, on court avec en semi-autonomie, on dit ça. Donc, on a un sac où on transporte un peu de matériel, de l'eau à boire, etc. Donc, il y a plusieurs trails. Donc, on a de 20 jusqu'à 20 km, c'est plutôt de la course nature. 40 km, c'est des trails courts. 40 à 80, c'est des trails. Puis au-delà de 80 km, on appelle ça de l'ultra-trail. Et puis là, quand on est dans l'ultra, on a la distance reine qui est les 100 miles. C'est environ 160 km. On a, sur ces distances-là, entre 8 et 10 000 mètres de dénivelé positif pour ce type d'épreuve.
Finalement, la course à pied, finalement pour toi, pour la première fois, je dirais envie de la vraie, celle qui t'a donné vraiment envie en dehors de la pratique scolaire ou d'un entraînement, je dirais, normal. C'était quand? Et puis peut-être plus précisément, cette passion de la course à pied, de trail en montagne, finalement, ça a commencé comment? Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui en était le déclencheur? Ou bien c'était une expérience tout à fait neutre et puis juste pour essayer?
Alors bon, ben, j'ai fait du sport depuis tout petit en famille. Au début, c'était un peu de la course, ce qu'on appelait des courses en montagne. Il y avait des courses comme Ovrona Cabane-Rambert, Sierzinal, le marathon de la Jungfrau. Et puis, c'était les débuts du trail où on entendait parler de l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont-Blanc, où il y avait quelques dizaines de passionnés qui réalisaient ce tour en une seule étape. Et puis, après avoir participé plusieurs fois au marathon de la Jungfrau, avec des bonnes sensations, j'ai voulu un petit peu me confronter à des distances plus longues. Et puis, en 2007, donc c'était là où j'avais fait un bon marathon de la Jungfrau, je me suis dit, je vais voir sur une distance de l'UTMB qui était la CCC, Courmayeur-Champais-Chamonix, de 100 km. Et puis là, j'ai pu m'inscrire pour une participation en 2008. Puis ça reste des souvenirs incroyables.
Ouais. Pour ta part, donc, c'est que finalement, très très vite, on a envie d'accéder à des parcours plus longs, plus difficiles et de se préparer de manière différente. Et puis cette envie aussi de courir pour les autres. Alors la question, c'est ça, c'est finalement la première course que tu as faite. Je suppose qu'on s'en souvient avec pas mal de précision, avec certainement du plaisir, avec peut-être aussi de la souffrance, avec un goût particulier finalement aux fins de cette course. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à cette course, la première qui t'a vraiment marqué et puis qui était particulière pour toi?
Oui, alors je pense qu'en termes de trail, c'est vraiment cette CCC en 2008. Donc, comme je l'ai dit, moi j'ai souvent vu mon papa courir, donc j'ai été dans le bain tout de suite. Et puis là, cette CCC, donc on fait les 100 derniers kilomètres de l'UTMB, donc des 160 kilos du tour complet. Et puis, le souvenir, il est que mes enfants étaient... ma fille avait 7 ans. Donc, elle me disait, ouais, mais t'es jamais sur le podium. Puis j'ai dit, mais en tout cas, là, c'est impossible parce que c'est quand même une course qui est de renommée mondiale. Et puis, à l'arrivée, j'en ai encore un petit peu la gorge qui est serrée. Donc, à l'arrivée, elle est montée sur le podium avec moi. Puis c'était des moments incroyables.
Ouais. Ouais, c'est super chaud. Je suis sûre qu'elle s'en souvient, elle aussi.
Ouais. Alors, je pense, ouais.
Et c'est pour ça que ça mérite d'être vécu, finalement.
Ouais, alors, c'est sûr que ces choses-là, ces moments-là, c'est vrai qu'aussi, tous ces parcours en montagne, le partage avec les autres concurrents, toujours ce défi d'arriver au bout, c'est des moments, ça vaut d'être vécu, quoi.
Peut-être une question qui va peut-être forcément en amener une autre derrière qui est assez liée. Est-ce qu'après une course qui est difficile, où on a finalement eu du plaisir, mais aussi souffert peut-être dans sa tête, dans son corps, on a une phase de récupération, on fait un bilan perso, je suppose, on mesure sa performance, on a des émotions, on a peut-être aussi d'éventuelles déceptions finalement. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer tout ça pour se dire... Je repars pour une prochaine, je me rentraîne et je repars. Est-ce que le plaisir prend le pas sur toutes ces émotions et tous ces facteurs différents ?
Ouais, alors c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas dans ce type de course, vu que c'est quand même plusieurs heures d'effort. Mais il y a certaines éditions, je suis arrivé, puis j'ai dit plus jamais ça. Et puis l'année d'après, j'étais de nouveau au départ. Et puis toujours... avec beaucoup d'envie d'arriver au bout et puis de me confronter une nouvelle fois au parcours puis aux difficultés. Et puis c'est vrai que la première diagonale des fous aussi, j'ai dit à ma femme que j'avais vécu l'enfer. Et puis on n'était pas rentré, que je disais que je voulais me réinscrire prochainement.
Bon, en même temps, on a un point commun, c'est un petit peu comme la radio. Nous aussi, on dit fini, plus jamais, et puis chaque année, on est de nouveau là. Alors, oui, effectivement, je pense, Pascal, qu'il y a des choses que tu prends conscience à force des courses que tu as entrepris. Par exemple, c'est la manière dont tu t'entraînes. Quand et comment, combien de fois
Alors, ouais, c'est vrai que moi, ça veut peut-être paraître un petit peu présomptueux, mais moi, j'ai pas envie de parler d'entraînement, parce que c'est vrai que c'est vraiment du sport. Donc, quand j'ai envie d'aller courir, je vais courir un bout. Si j'ai envie d'aller à vélo, je vais à vélo un petit bout. Je sors, c'est pour profiter de la nature, c'est pour me décontracter, c'est pour aller courir avec des amis, etc. Mais... je ne parle pas forcément d'entraînement.
Mais quoi. Par contre, justement, par rapport à la diagonale des fous, je pense que tu vas modifier peut-être ton rythme, ton alimentation, des choses comme ça qui vont te permettre d'être un peu plus performant ou...
Alors, c'est clair que la charge d'entraînement ou de sortie va être peut-être un petit peu différente. Et puis, c'est vrai que la première édition, je me suis rendu compte que le climat avait une importance très particulière. Donc, j'avais toujours couru dans les Alpes. Et puis là, je me retrouvais aux antipodes, ouais, pas aux antipodes, mais à la hauteur de l'Afrique du Sud, sur l'île de la Réunion. Et puis là, le climat humide et chaud, j'en ai souffert. Donc après, j'ai un petit peu... j'ai été la deuxième fois, on a été plus tôt sur l'île, j'ai pu m'acclimater un peu mieux. Comme de cette manière-là, j'ai eu de meilleures sensations lors de cette deuxième édition.
Donc tu as terminé combienième déjà ? Enfin, en combien d'heures, pardon ?
Alors j'ai terminé en 37 heures et puis j'étais 12e dans ma catégorie.
Ah, quand même, hein ?
sur plusieurs milliers de participants.
Ah ouais, la classe.
Chapeau bas. Et je dois c'est vrai que je dois souligner qu'on se voit quand même quelques fois par année, notamment avec les contemporaines et les contemporains. Et je dois vraiment saluer aussi particulièrement une hygiène de vie qui, je pense, si on veut accéder à un certain nombre de kilomètres et de performances, on n'a pas le choix. Et je salue tout particulièrement. De temps en temps, quand je regarde la mienne, je me dis que je ne ferai pas la diagonale des fous.
Bon, alors on l'a fait autrement, différemment. Moi, j'en fais d'autres diagonales, Sylvain.
Exact.
Pascal, on va passer à un morceau de musique que tu as choisi. Qu'est-ce que tu aimerais en premier comme choix de musique qui te ferait plaisir entre Chris Rea, Francis Cabrel ou Sting?
On peut y aller avec Chris Rea.
Ok, avec grand plaisir. Of you.
On est de retour dans l'émission Les Fruits de la Passion avec notre invité Pascal Pittet de Sainte-Croix, avec lequel nous parcourons le monde des courses en montagne, respectivement du trail. Avant de poursuivre notre interview, une question Pascal, cette chanson de Chris Rea, est-ce qu'elle a d'une part une connotation particulière pour toi? Et puis est-ce que tu écoutes la musique quand tu t'entraînes pas visiblement, mais quand tu cours, quand tu as du plaisir à aller faire des kilomètres?
Alors, non, pas de connotation particulière pour cette musique de Chris Rea. Simplement que j'aime bien Chris Rea, puis que j'aime bien la musique plutôt cool. Et puis, j'écoute pas de musique en course. Par contre, c'est vrai que je sors, entre parenthèses, m'entraîner. Là, j'ai de la musique, mais pas trop fort pour vraiment encore entendre les bruits de la nature. Et puis, ben, y a, depuis quelques temps, il existe des casques où on n'a pas besoin de mettre le casque dans les oreilles, qui travaillent par vibration comme les appareils pour les malentendants. Ça permet d'entendre en fait la musique et ce qui se passe à côté de nous. C'est juste parfait, quoi.
C'est génial. Pascal, une petite question comme ça qui me vient assez spontanément. Sylvain, je suis désolée, des fois ça arrive. Hein. Non, en fait, moi ça fait depuis le début que je voulais te la poser, en fait, parce que 37 heures, c'est quand même relativement long, malgré tout. C'est rare qu'on fasse quelque chose 37 heures d'affilée. On va dormir entre deux, on va, voilà. Hein. Et puis, en fait, à quoi penses-tu? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le processus quand tu cours comme ça, quand tu es en effort physique? Est-ce que tout y passe? Est-ce que tu fais des bilans? Est-ce que, voilà, c'est un petit peu une question un peu peut-être intime, mais est-ce que ça te dérange d'y répondre?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, bah, je crois qu'au début, il y a l'euphorie du début de la course, il y a sur quoi on se lance, etc. Donc, il y a un tas de pensées qui nous traversent l'esprit les premières heures. Mm-hmm. Puis après, ben, il peut y avoir des moments plus difficiles. Donc là, les pensées vont être plus au niveau de se dire, mais est-ce qu'on va y arriver? Comment ça va aller? Etc. Puis après, ben, il y a toute une dimension quand même où ben, on a beau s'entraîner tout ce qu'on veut, il y a quand même une bonne partie sur ces courses, c'est dans la tête. Donc, moi, je travaille plutôt avec les pensées positives, donc une forme d'auto-hypnose quoi, à un certain moment. Mais oui, ça va un petit peu dans tous les sens quoi, sur ça. Ce type de...
Par contre, est-ce qu'on pourrait dire que tu n'es plus le même homme au début de la course et après?
Alors, je pense que c'est une chose qui est sûre, ouais, surtout sur les très très longues où là où il y a bon, des courses de plus de 100 heures, là on commence à avoir des états un peu seconds, comme on peut dire.
Au niveau ravitaillement, il y a quelque chose, bien sûr, il y a des choses qui se passent. Donc ça te permet aussi, quand même, dans des courses aussi longues, de donner d'avoir l'énergie pour continuer, en fait, parce que...
Alors, c'est le point le plus délicat, le ravitaillement. Donc là, c'est vrai que, vu que l'effort devient très intense, l'estomac, il ne réagit plus. Donc, en tout cas, les abandons en trail, le 80% des abandons, c'est dû à des problèmes gastriques dus au ravitaillement. Donc, il faudrait se forcer à manger, c'est toujours difficile. Sur des courses d'une dizaine d'heures, il n'y a pas trop de problèmes. Après, que ça se prolonge, ça devient vraiment compliqué. La première diagonale des fous, par exemple, je ne pouvais absolument plus rien boire ni manger. Donc, ouais, on est état de fébrilité, d'hypoglycémie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des c'est pas terrible quoi, comme sensation, mais on fait avec. Quoi. Donc, sur les plus longues, après, ça passe. Et puis, on essaye de manger ce qui nous fait envie. Puis, c'est là que le staff qui nous suit est très, très important, parce que c'est là qu'il peut satisfaire des caprices, peut-être des fois un peu de femme enceinte.
D'accord.
Ben, c'est vrai que bon, ça nous fait rebondir sur une question. Quand on pratique un sport aussi exigeant que le trail sur ces longues distances, d'une part, cette passion, je pense qu'elle rime de temps en temps aussi avec concession, et on pense notamment à l'entourage ou à la famille. Comment ça se passe finalement avec ses proches?
Il faudrait leur demander.
Certainement.
Mais bon, ben, ouais, ça fait, on va fêter nos 30 ans de mariage cette année avec, avec Valérie. Donc, il faut croire que ça, elle supporte. Mais elle m'a toujours connue comme ça. Donc, c'est vrai que ben, elle participe aussi grandement aux exploits, dans le sens où c'est elle qui me suit, qui me ravitaille, qui m'encourage. Et puis, ben, sans elle et sans eux, puisqu'au départ, il y avait aussi les enfants qui étaient là, je pense qu'à certains moments, on arrêterait, quoi. Et puis, ben, sur un ravitaillement, quand ils nous encouragent, puis qu'ils nous disent que tout va bien aller, ben on repart et puis c'est reparti pour un tour, quoi.
Oui. Eh ben écoute, par rapport à ça, est-ce que chacun doit trouver finalement sa formule, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un principe qui ne s'apparente pas à chaque coureur? Je pense que chaque course nous permet de grandir et puis de pouvoir s'améliorer et de se connaître encore mieux. Donc toi, en fonction des objectifs et en fonction des courses et des difficultés, est-ce que d'une part tu changes ton entraînement, et en fonction aussi de ces courses et de ces difficultés, est-ce que la manière dont tu t'alimentes, elle reste maintenant toujours la même, ou tu as quand même une adaptation à faire, ben, à laquelle cette adaptation, ou ton épouse est liée, ou des amis ou des parents qui peuvent finalement venir t'apporter à des endroits stratégiques ou spécifiques ce qu'il te faut comme ravitaillement et comme carburant?
Alors l'alimentation, bon ben, je vais certainement pas manger une choucroute ou la fondue avant la course, mais ouais, je change pas grand chose. Je dirais la semaine avant des grandes compétitions, là je vais faire un petit peu plus attention. Ben, je mange déjà très peu de viande, mais là ben, je vais pas en manger. Je vais manger que des légumes cuits, je vais pas manger de salade ou ce genre de choses, vraiment pour avoir l'estomac le plus propre, entre parenthèses, possible. Et puis autrement, lors des ravitaillements, alors c'est vrai que moi j'aime bien les produits laitiers, donc il n'y en a pas souvent sur les ravitaillements, donc là c'est en général mon épouse qui peut m'apporter ce que j'ai envie. Et puis autrement, par rapport aux entraînements, quand tu parlais d'entraînement spécifique, là ben, c'est sûr que si on s'entraîne pour un 300 kg ou un 160, ben les sorties seront pas les mêmes. Donc on va faire sur du 300 km, on va plutôt faire des sorties type randonnée, on va partir plusieurs jours pour vraiment faire du fond. Et puis sur du 160, là, ben on va rester sur des sorties à la journée.
Question peut-être particulière ou un peu aussi intime. Quand on change d'état durant la course avec ces grandes courses de grande endurance, est-ce qu'on n'est pas à un moment donné à la recherche de cet état qui nous procure un plaisir ou une particularité dans son corps et puis aussi dans son cerveau et dans la manière de fonctionner?
Alors c'est sûr, donc ben, physiologiquement, donc c'est prévu, c'est prouvé que ben, le sportif il produit des substances, donc qui peuvent être comparées à certains produits qui peuvent être moins intéressants, je dirais. Mais non, c'est sûr qu'on atteint on va chercher ces sensations à travers ces efforts. Et puis, alors c'est vrai que, bon, quand on lit des bouquins de grands trailers, comme on connaît, il y a beaucoup de monde qui connaît Kilian Jornet, dans un de ses livres, en tout cas, il parle que lui, ça ne va pas tant qu'il n'a pas le goût du sang dans la bouche. Pour moi, c'est pas tout à fait mêmes sensations, quoi. Je vais pas jusque là. Puis d'autres états me satisfont tout à fait.
C'est bien, Pascal. Merci en tout cas de répondre à nos questions un peu invasives parfois, on pourra le dire quand même, Sylvain. Hein. Voilà, disons-le. En tout cas, c'est super intéressant. Je suis très contente d'aller un petit peu plus approfondir ta passion, Pascal. Et puis, moi, je te proposerais d'écouter Sting.
Volontiers.
Avec un Englishman in New York.
Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant sur Radio Carnaval, nous sommes dans l'émission Les Fruits de la Passion avec notre invité du jour, Pascal Pittet, avec lequel nous échangeons sur les courses de haute montagne et le trail. Nous parlions juste avant la pause musicale de la souffrance mentale, la souffrance aussi du corps et le partage avec l'entourage pour tout ce qui était notamment ravitaillement. Une question, dans l'effort, dans la souffrance, dans la persévérance et la volonté d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, Y a-t-il réellement un combat contre soi-même? Est-ce qu'on arrive encore à profiter finalement de la course avec les autres? Au départ, on est sur une mass start où on part ensemble. Il y a très certainement au départ peut-être des échanges. Et à quel moment finalement on se retrouve seul dans cette course ou dans la course?
Alors bon, c'est clair que les départs maintenant, en course, comme sur la Diagonale des Fous, c'est des moments complètement irréalistes où on part à plusieurs milliers, on traverse pendant 10 kilomètres des foules de spectateurs qui nous encouragent. C'est des moments où on a la chair de poule, quoi. Alors c'est vrai qu'après, la Diagonale des Fous, on part à 22h, donc on s'enfonce dans la nuit, on voit un serpentin de lampe frontale qui court dans les cannes à sucre, c'est quelque chose d'incroyable. Puis après, petit à petit, on se retrouve tout seul. Et après, ça dépend quelle course aussi on va vivre. Alors c'est sûr que j'ai eu partagé avec un cousin avec qui j'ai fait la Saint-Élion plusieurs fois. Donc la Saint-Élion, c'est une course qui part de Saint-Étienne à minuit et qui traverse les Monts Lyonnais jusqu'à Lyon, où il y a aussi 10 000 participants. Donc lui, il court dans la masse du peloton. La course devant, elle est totalement différente parce qu'on est à un certain moment, on est tout seul sur les ravitaillements, on arrive, il n'y a quasi personne, alors que pour lui, il doit attendre pour se ravitailler tellement il y a de monde. Donc le partage, il est différent pour chacun dans les courses, quoi.
Tu nous disais, quand on a préparé cette émission, que la Diagonale des Fous, une course mythique qui est connue dans le monde entier, les gens à l'île de la Réunion étaient vraiment corps et âme pour cette course et puis vivaient ça de manière très particulière. Toi, tu avais vraiment senti quelque chose de très particulier en faisant cette course, en communion avec d'une part la nature, mais aussi avec les gens de l'île.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est vraiment tout le monde nous encourage tout au long. Pourtant, on traverse, comme par exemple le cirque de Mafate, il n'y a aucun moyen de locomotion à part l'hélicoptère pour rejoindre ce cirque de Mafate qu'on traverse pendant plusieurs heures. Mais là, les gens sont à nous encourager, ils nous disent tous qu'on va arriver. Donc l'arrivée, c'est sur le stade La Redoute à Saint-Denis. Donc c'est vrai que c'est vraiment des moments très très forts avec la population locale. Le Tour des Géants dans le Val d'Ost, la même chose. C'est vraiment une course régionale où tous les bénévoles sont des Valdotins qui vivent pour cette course. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très très fort.
Mmh. En tout cas, des magnifiques souvenirs.
Oui, ouais, toujours.
Toujours, hein.
Pas de souffrance, comme on veut bien le dire. Sylvain.
Mais tous nos enfants, la souffrance est belle. Et des fois, la souffrance fait du bien parce que finalement, on est vivant. Et c'est aussi l'aboutissement ou l'apothéose de l'entraînement, à quelque part.
Oui, et puis après, tu te rends compte que lorsque tu es bien, tu apprécies d'autant plus.
Oui, il y a une sorte de plaisir aussi de faire certaines choses sportives et de s'entraîner, de tenir des objectifs.
Et puis surtout de se dépasser, je pense, quand même.
Oui, et puis moi, je trouve que la souffrance, c'est aussi une sorte de plaisir et d'aboutissement par rapport à ça. Mais c'est peut-être pas le bon mot, effectivement, Pascal. C'est peut-être pas le bon mot. Je réfléchirai à un mot meilleur quand on se verra pour la prochaine fois.
Pardon, Pascal, si tu devais vendre, ou plutôt faire envie à des jeunes sportifs qui pratiquent la course à pied, quels sont les mots que tu utiliserais? Quel serait ton discours?
Alors bon, c'est vrai que le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pour quelqu'un qui aimerait la nature, quoi. C'est vrai que ce type de course, c'est vraiment fait pour apprécier la nature, les montagnes, etc. Donc se retrouver tout seul au milieu de la montagne, à un coucher de soleil, au sommet d'un col ou au lever de soleil sur un lac de montagne, la nuit, sous un ciel étoilé avec sa frontale, c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, faut le vivre pour s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment ces côtés communion avec la nature et la montagne qui serait l'élément qui pourrait essayer de, motiver les gens à faire ce genre de choses.
Quand on parle de jeunes sportifs, depuis quel âge il faut avoir quelles conditions, quelles préparations pour faire des courses de longue distance? Il y a des très jeunes qui courent sur ces longues distances.
Alors c'est vrai qu'au début, on disait qu'il fallait quand même avoir un certain âge pour avoir de l'endurance. Et puis que les jeunes, ils étaient plutôt faits pour du rapide. Puis c'est vrai que Kylian Jornet, lui, il est arrivé très jeune à gagner des courses. Et puis on se rend compte que maintenant, c'est quand même des personnes assez jeunes qui sont sur la tête des pelotons et puis qui réalisent des exploits. À chaque fois toujours plus stratosphérique.
J'utilise plus le mot entraînement, c'est la dernière fois, je promets. Quand tu vas courir par plaisir pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans ces courses, on a compris que tu faisais d'autres sports. Est-ce que c'est essentiel de pratiquer autre chose que la course à pied, du fitness, natation, du vélo? Est-ce qu'il y a un travail musculaire particulier?
Alors ouais, je pense que ça c'est essentiel. Donc c'est vrai que de pratiquer de la course en montagne, donc ça veut dire de monter, descendre, donc d'avoir une bonne ceinture abdominale, d'avoir des muscles qui tiennent au niveau des cuisses, etc. Donc c'est important. Donc personnellement, j'en fais pas énormément, mais je fais un tout petit peu de fitness, en tout cas une à deux fois par semaine, un cours de TRX par exemple, où j'ai du plaisir à aller. Et puis autrement, comme je l'ai dit, moi j'aime bien, donc j'ai fait pendant longtemps du triathlon, donc bon, je fais plus autrement de natation, mais par contre j'aime bien la vélo, donc je fais assez souvent les trajets entre Sainte-Croix et Lausanne sur mon lieu de travail à vélo. Pendant l'hiver, je vais un soir par semaine au Centre mondial du cyclisme à Aigle faire du vélo de piste. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut paraître monotone de tourner sur un anneau de 200 mètres, mais à vélo, mais c'est assez grisant avec la vitesse, les virages relevés, puis ça fait du fond, ça maintient pendant l'hiver. Donc c'est vrai que... C'est aussi de diversifier les entraînements, parce que je pense que de toujours aller courir, personnellement, j'ai envie de faire parfois d'autres choses.
Diversifier un petit peu.
Je reviens sur quelque chose que tu disais dans la première partie de l'émission, l'auto-hypnose.
Ouais, alors
ça tu as appris tout seul ou bien tu as appris avec quelqu'un, et quel bienfait ça te procure?
Alors c'est vrai que j'ai l'habitude toutes ces courses, en général, sur les très grandes, je ne pars pas tout seul. La Diagonale des Fous, sur les plus courtes, ouais, là, on part tout seul. Mais sur les grandes de 300 kilos, je suis toujours parti avec un ami avec qui on partage beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, donc Philippe Carrard, qui est la personne avec qui je m'entraîne, je cours, etc. Okay. Son épouse est une grande... elle pratique l'hypnose, elle est formée là-dessus. Et puis, elle m'a donné deux, trois tuyaux à ce niveau-là. Et puis, de cette manière-là, on peut l'utiliser. Alors, je ne peux pas dire que je suis un expert, mais... Ouais, deux, trois lectures aussi, puis deux, trois conseils. Quoi,
sur... C'est quand même quelque chose qui t'aide beaucoup.
Ouais, alors c'est sûr.
C'est un bon support.
Ouais. Okay. Non, c'est sûr qu'à un certain moment, il faut trouver des. Quand ça devient vraiment difficile, il faut trouver.
Ouais, j'imagine au niveau mental déjà, ça doit déjà être une sacrée. Enfin, épreuve, non, mais quand même, quand je parlais avant de se surmonter, de se dépasser, à un moment donné, je pense qu'effectivement, tu dois avoir quelques outils supplémentaires pour effectivement arriver au bout, pour éviter d'abandonner au milieu, ou enfin, au milieu, c'est peut-être pas forcément, c'est pas le but en soi qui est important, c'est toujours de participer,
on est
d'accord. Mais à todo, c'est quand même toujours un challenge, de dire que tu auras pu atteindre l'arrivée.
C'est toujours dans ce type de course, c'est vraiment l'objectif, c'est de finir. Mm-hmm. Quoi. C'est le seul objectif qu'on peut entrevoir si on ne va pas courir pour le classement. Quoi.
Absolument. Et puis, Pascal, est-ce que toi, tu as eu déjà, tu as entendu à ta connaissance, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de dopage dans ce sport ?
Alors, c'est vrai qu'au début, dans ces courses nature, la philosophie, c'était de ne pas avoir de prize money pour justement garder un esprit, je dirais, amateur de ce type de course. Puis bon, au fil des années, ça a vite changé. Donc, on a vu apparaître des thèmes, le thème Salomon, le thème Oka, etc. Mm-hmm. Donc, avec des professionnels, puis ben, bien sûr qu'il y a eu des prize money. À ma connaissance, j'ai pas eu bruit de cas de dopage. C'est vrai que moi, lors d'une course, le Trail des Côtes d'Or, il contrôlait les premiers, donc j'ai dû passer au contrôle antidopage. Donc ça aussi, c'est une expérience assez particulière, je dirais, dans ma pratique du sport d'endurance.
Tu dois te sentir un peu coupable comme ça, de rien en fait, tu ne sais pas vraiment de quoi, mais quand même, j'imagine qu'il y a un petit peu de culpabilité qui doit ressortir.
C'est particulier.
tu nous disais avant, Sylvaine l'a mentionné à l'ouverture de l'émission, cette course particulière de 390 km, hein, plus de 24 000 mètres de dénivelé avec Vaduz Montreux, qui n'est quand même pas rien. Hein, si on prend la carte, quand on tend une diagonale entre Vaduz et Montreux, c'est peut-être pas la diagonale des fous, mais c'est quand même pas rien. Est-ce que c'est la plus grande course à laquelle tu as envie de te préparer pour l'année prochaine, en 2024, puisqu'en 2023, cette année, elle n'aura pas lieu. Est-ce que tu appréhendes ou tu vas finalement embrasser, allez, je le dis, l'entraînement que tu vas faire pour cette course de manière particulière, parce que ça sera la plus grande, la plus longue que tu auras effectuée ?
Alors bon, j'ai déjà participé donc au Tour des Géants. Ça, c'est 350 km avec aussi 24-25 000 mètres de dénive. J'ai fait le Swiss Peaks, donc là on part du glacier du Rhône pour rejoindre le lac Léman en traversant tout le Valais. Donc là c'est 360 km aussi avec environ 24 000 mètres de dénive. Et puis il y a quelques années, on s'était inscrit sur la Transpyrénée avec Philippe Carrard justement. Et puis donc ça c'est 800 km avec près de 50 000 mètres de dénivellation. Donc là, malheureusement, j'ai dû arrêter après 500 km sur blessure. Mmh. Je suis resté au bord du chemin et puis j'ai vu partir Philippe tout seul. C'était une déception assez conséquente. Mmh. Mais là, la course des 390 km, ben, là aussi, il est parti. On avait prévu partir à deux et puis ben, j'ai dû le laisser partir tout seul du fait que professionnellement, je n'avais pas pu m'entraîner comme je le voulais. Donc, c'est toujours des déceptions assez conséquentes.
Je rebondis, Pascal, c'était ma question aussi. Ça m'intéressait de savoir si effectivement tu avais eu des blessures qui t'avaient empêché dans tout ton parcours. Là. Donc là, en tout cas, il y en a une.
Alors oui, je n'ai pas eu beaucoup de blessures. Donc, je touche du bois tous les jours puisque je suis menuisier. Mais,
ça peut aider.
Ça peut aider. Ouais, alors là, c'est vrai que je me suis claqué et puis ben voilà quoi. J'arrivais encore, j'aurais peut-être pu aller au bout, mais pas au rythme de Philippe. Et puis j'ai pris la décision d'arrêter vu qu'il y avait aussi le staff qui suivait, donc ça aurait été un peu compliqué de partager le staff en deux pour pour me suivre plus lentement. Et puis j'ai pris la décision de stopper sur blessure. J'ai un copain qui l'a fini avec bien plus de blessures que moi. Après il y a le côté éthique peut-être qui rentre en ligne de jeu, savoir se protéger, puis peut-être pour vieillir un peu mieux
et puis pour penser aux autres courses aussi, parce que j'imagine que la récupération n'est pas la même.
Tout à fait.
Du coup,
on parlait de l'alimentation pendant la course et puis aussi de l'alimentation après la course. Quand on parle de marathon sur route, on parle souvent de un jour par kilomètre de récupération. Quand on fait du trail de montagne, est-ce que d'une part, toi, tu te prépares des choses vraiment de nourriture spécifique qui te conviennent parce que tu te connais à la longue ? Et puis, combien est-ce que de temps tu te reposes avant de refaire un effort physique particulier au terme d'un trail de montagne?
Alors bon, par rapport à l'alimentation, comme je l'ai dit, moi, j'essaie de me nourrir plutôt de manière normale. Il n'y a pas de choses particulières. Sur ces toutes grandes courses, on s'est rendu compte avec Philippe que les pâtes, on en avait vite un peu marre. Donc, le staff nous préparait souvent des purées de pommes de terre. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas besoin de mâcher non plus. Donc, ça descendait tout seul. Donc, ça, c'était une chose qui était intéressante. Puis, là aussi, j'ai des connaissances qui font des trails tous les week-ends. Et puis, moi, j'ai en général souvent deux, voire trois objectifs par saison, mais je vais pas au-delà.
Oui. Au vu de... puisqu'on est contemporain, avec ton expérience et l'amour que tu as du trail et de la course en montagne notamment, est-ce que tu aurais envie de courir avec des jeunes? Et puis, est-ce que tu pourrais être intéressé à organiser finalement un trail?
Alors non, je ne me suis jamais senti la fibre d'un organisateur. Par contre, d'un coach, oui. Donc, j'ai fait plusieurs courses avec des personnes plus jeunes que moi. Donc... Des gens qui voulaient se tester sur des distances jusqu'à 80 km. Donc, j'ai accompagné des personnes sur ces distances-là. Donc, c'est vrai que ça, c'était aussi des expériences très, très riches en émotions. Parce que c'est vrai que, de voir quelqu'un arriver au bout de son objectif, on s'est entraîné ensemble, on a fait plusieurs heures de préparation, et puis que l'objectif puisse être atteint, c'est toujours très chouette.
En tout cas, on voit dans la région, dans le cadre des trails, de grandes ou plus petites distances, c'est un sport qui fleurit vraiment, et on a beaucoup de demandes de ces trails. On voit très souvent sur le net des annonces. C'est un sport qui a vraiment pris un essor très particulier pour essayer de se retrouver en montagne, de concurrencer aussi d'autres sports qui se font sur route. Et en tout cas, c'est un sport qui est vraiment en plein essor par rapport à ça, sur des distances particulières dans les Préalpes et ailleurs. Et c'est vraiment intéressant de voir finalement que les jeunes, et un certain nombre, on leur fait des courses ou des concepts ou des profils de courses qui sont adaptés à leur âge et à leur entraînement. Et je pense que ça, c'est vraiment un avenir qui est intéressant pour les trailers. Et puis, au début, c'était réservé quasiment qu'à une élite. Puis, on voit que maintenant, ça touche vraiment un grand nombre d'adeptes de la course à pied, puis qui veulent s'essayer de courir en dehors des chemins bétonnés ou des revêtements bitumineux, comme on dit, sur la chaussée.
Alors, tout à fait. C'est vrai que les organisateurs, maintenant, ils ont vraiment une distance pour chaque envie. Ça, c'est assez intéressant.
Effectivement, Pascal, Sylvain, je crois que le temps nous est compté. Donc, nous arrivons au terme de notre émission, gentiment mais sûrement. Donc, Pascal, je vais laisser Sylvain te remercier. Parce que c'est lui qui a commencé, donc je vais le laisser terminer.
Oui, c'est vrai que on te remercie vraiment sincèrement, Pascal, pour les réponses que tu nous as données, aussi de temps en temps un peu plus personnelles, de pouvoir connaître un tout petit peu mieux ce monde du trail et cette course en montagne, en parlant de ton expérience, de tes objectifs. On peut que saluer finalement les exploits qui sont pas sûrs. Comme tu le dis, tu n'es pas seul, il y a des milliers de personnes, mais c'est vraiment un beau sport. J'ai envie de dire vive le sport. Et on te souhaite surtout une belle année. On espère que tu pourras t'entraîner de manière tout à fait correcte pour pouvoir goûter à ces 390 km et 24 000 mètres de dénivelé en 2024, et que tu auras beaucoup de plaisir à poursuivre ce sport. Et on te souhaite un excellent samedi soir. Et à bientôt, Pascal.
En tout cas, merci à vous de m'avoir invité. C'est vrai que c'était plaisant de pouvoir parler de ma passion de la course à pied en montagne.
Super, Pascal, merci beaucoup. Je remercie aussi le parrain de notre émission qui est Blue Fire Formation au premier secours. Et puis, on va terminer avec la cabane du pêcheur de Francis Cabrel.
Son poids au-dessus de la rivière. Je rangeais mes cannes, on ne voyait plus que du feu. Je l'ai vu s'approcher la tête ailleurs dans ses prières. Il m'a semblé voir trop briller ses yeux. Je lui ai dit, pleure pour un garçon, tu seras pas la dernière. Souvent les poissons sont bien plus affectueux. Va faire un petit tour, respire le grand air. Après je te parlerai de l'amour, si je me souviens un peu. Justement, c'est ce que je voudrais savoir.